Conversations urbaines et architecturales, une émission présentée par Myriam Schwartz, architecte et urbaniste sur Radio Immo.
Chers auditeurs, bonjour. Quel plaisir aujourd'hui de recevoir une femme. Hein. Une femme qui a un poste important dans le bâtiment, c'est pas souvent, n'est-ce pas? Allez, on va recevoir avec grand plaisir Emmanuelle Soufflet, qui est directrice générale Bouygues Bâtiment Construction Privée. Mais alors, comment fait-on pour arriver à ce type de poste, Emmanuelle?
Bonjour Myriam, ça va très bien. Écoute, ça va, on travaille beaucoup pour arriver à ce type de poste. On connaît des gens, on travaille, on a des bons collaborateurs aussi, c'est très important d'être bien entouré. Et puis, c'est un super métier, donc c'est un plaisir de l'exercer.
Alors, avant de discuter effectivement du poste et comment fait-on pour arriver à casser ce plafond de verre? Moi, j'ai besoin de savoir quel est l'ADN de Bouygues Construction Privée. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans ce type de... Voilà, que vous avez choisi, que Bouygues a choisi d'avoir vraiment cette référence spécifique à la construction privée?
Alors, l'existence de construction privée, ça date de 2003, donc ça fait...
C'est récent, on est d'accord?
Ouais, 21 ans,
mais bon... Ouais, mais enfin, c'est récent par rapport à Bouygues, la grande maison, depuis tellement longtemps.
Alors, en 2003, en fait, Bouygues s'est réorganisé en Île-de-France, spécialité par produit. Mm-hmm. L'idée, c'était d'avoir des experts qui s'adressent à leurs clients et qui leur proposent le meilleur, en fait, mm-hmm. de Bouygues. Donc, on s'est organisé, il y a les habitats, social, résidentiel, rénovation privée, construction privée. Construction privée, nous, on est les spécialistes des projets tertiaires complexes, neufs. On a des savoir-faire un peu particuliers. On sait construire des tours, des IGH, on sait construire des grands projets. On construit aussi des projets plus petits, des centres commerciaux, des écoles. En gros, ce qui nous différencie un peu, c'est qu'on est capable d'affronter la complexité dans les délais voulus par nos clients. Et puis maintenant, en plus, on arrive à verdir nos opérations.
Alors, ça, on va évidemment en parler parce qu'on va choisir un exemple spécifique parce que je souhaiterais vraiment que vous m'en parliez, mais j'ai besoin de savoir et d'essayer de comprendre en quoi le dialogue est différent. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un client plutôt qu'un autre va se dire, je sais qu'en face de moi, j'ai effectivement les bons interlocuteurs. Parce que, on sait aujourd'hui que c'est extrêmement difficile d'avoir des opérations. On est dans une situation économique qui est pas facile. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui décident de construire leur siège social ou d'écoles privées qui décident de mettre, on va dire, les fonds et les moyens suffisants pour pouvoir construire une école privée dédiée au management, au commerce, etc. Ou à la technique, bien sûr. Comment fait-on pour se distinguer?
Alors, je pense que on a quelques belles références chez Construction Privée qui parlent déjà pour nous avant qu'on se présente. On a construit la Tour Alto à la Défense, on a construit le TGI, on vient de livrer là pour...
Ah oui, ça c'est quelque chose quand même.
Ouais, quand même. Et on vient de construire là pour Next City, le campus pour Engie mm-hmm. À la Garenne-Colombes. Donc je pense que on a un savoir-faire qui est reconnu, technicité, garantie des délais, et ça, c'est déjà un bon premier point. Mais ça fait pas tout. Depuis quelques années, on essaye aussi de travailler notre savoir-être et d'être connu aussi, pas que comme des pros, mais aussi des gens compétents et sympathiques avec lesquels on a envie de travailler.
Très important.
Ouais, c'est un peu mon leitmotiv pro et sympa. Mmh. Et d'être beaucoup plus à l'écoute de nos clients, de les accompagner dans les évolutions de leurs projets, de les aider aussi.
C'est ça, parce qu'on sait très bien que les privés, pour le vivre actuellement sur quelques-uns de mes chantiers, dont un en particulier, même s'ils ont un programme, même s'ils ont des AMO, même s'ils ont le sentiment d'avoir parfaitement mis au point leur programme et d'avoir travaillé avec leur maître d'œuvre pour savoir ce qu'ils voulaient en amont, l'évolution du projet, les temps longs de la construction font que les réorganisations aussi des sociétés font que ils ont des changements. Comment fait-on pour ne pas trop impacter le temps, ne pas trop impacter le financier et faire en sorte que cette écoute, elle se transforme d'une manière raisonnable?
Alors, déjà, on essaye de faire de plus en plus du sur-mesure, puisque on est passé de clients qui étaient des promoteurs il y a quelques années, qui construisaient en blanc pour un produit qui plaisait au maximum de personnes,
fini.
Pour un futur utilisateur, à des projets utilisateurs. Donc aujourd'hui, on construit pour des gens un produit particulier, et c'est vrai que...
Du sur-mesure.
Et c'est vrai que pour un utilisateur, la capacité de faire évoluer son projet au fur et à mesure, elle est très importante. Déjà, enfin, nous, on essaye d'intervenir au maximum en phase, avant le pro, en fait, pour apporter de la compétence sur tout ce qui est technique, gros œuvres, fluides. Et on aime bien proposer un peu ce modèle où on va travailler avec un architecte qui est choisi par le promoteur ou l'utilisateur, enfin l'investisseur, qui va lui travailler le côté esthétique, le bien-être, l'usage, etc.
Ah, attention, est-ce à dire qu'il n'y a que les entreprises qui travaillent sur le technique et les architectes sur l'esthétique ?
Non. En fait, ce qu'on propose, c'est une association, en fait, et en disant, ben, nous, notre métier, c'est finalement que ça coûte aussi le moins cher possible. Et donc, en travaillant tout ce qui est structure et fluide dans des solutions techniques, on va essayer de minimiser ce coût-là pour pouvoir laisser plus de place, justement, à l'architecture. Donc, en intervenant sur un APS, en fait, on peut développer ce projet-là. Et on sait, en plus, le projet va encore évoluer après, pendant la durée de chantier, puisque...
Bien sûr. Alors, justement, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, puisque on sait très bien que dans la durée du chantier, puisque nos opérations, surtout quand c'est des grandes opérations, elles peuvent durer, je sais pas, on va dire, entre le moment où on a les premières esquisses et le moment où on livre, il peut se passer 5 ans.
Oui,
c'est, à l'aise,
je pense que,
même parfois
c'est
plus.
Bien,
voilà. Alors, qu'est-ce que fait que pendant ces 5 ans, alors que le client évolue, que la situation économique est différente, que lui-même a des désirata différents parce qu'il est obligé de s'adapter à la situation, à son carnet de commandes, à la situation économique, etc. Qu'est-ce qui fait que vous vous mettez dans ses pas? Avec l'architecte, évidemment, avec l'architecte, les bureaux d'études, etc., pour aller justement dans cette évolution du projet.
Nous, je pense qu'on a compris que si on restait rigide et peu flexible, de toute façon, on n'allait pas faire de chantier. Donc, tu vois, c'était une réelle nécessité pour nous de nous adapter et de changer. Nous, notre job, c'est de se dire, si le client, il veut une livraison à telle date, c'est comment on lui garantit ça. Donc, on va être le métronome et on va lui dire, ben, jusqu'à telle date, tu peux changer.
Mais ça veut dire qu'on lui met de la pression.
Non, on lui met pas de la pression. Alors après, ça, on lui dit, si tu veux garantir ton délai, il y a des choix que tu peux reporter, mais
jusqu'à telle date.
Jusqu'à telle date. Il n'y a pas d'impact coût ni délai. Après telle date, il peut avoir des impacts coût et délai, mais on lui dit d'avance, en fait.
Au sein de Bouygues Construction Privée, on travaille aussi sur l'évolution des bâtiments? Est-ce qu'on travaille aussi, on incite, puisque aujourd'hui, on sait très bien que entre l'hybridation, la mixité d'usage, etc., on est obligé d'être aussi extrêmement flexible là-dessus, mais un bâtiment de bureau, c'est pas un bâtiment de logement. Donc, est-ce qu'on incite le client, puisqu'on est en B2B avec le client privé, à être parfaitement à même de d'évoluer aussi dans son idée, dans son programme, dans...
Nous, on va lui proposer des solutions de flexibilité et de réversibilité. Mais toujours en pesant le pour et le contre par rapport à l'environnement. Parce que avoir un bâtiment tout de suite réversible, bureau-logement, c'est beaucoup d'argent et beaucoup de matière tout de suite dépensée.
Bien sûr.
Mais un bâtiment réversible, bureau-ERP, en école, etc., c'est assez facile. Donc on va essayer de lui proposer des solutions avec des réservations pour que plus tard, en fait, le bâtiment puisse évoluer. Par exemple, on va prévoir des gaines pour plus tard mettre une clim un peu plus forte, etc. En mode plug-in, histoire de pas consommer de la matière tout de suite alors qu'il n'y en a pas besoin, en fait. Donc on apporte effectivement ces solutions.
Alors, aujourd'hui, on est obligé aussi de se poser la question des matériaux, du côté, on va dire, vert, mais qui n'est pas obligatoirement vert, mais en tout cas qui est raisonnable au niveau à la fois de l'utilisation de la matière et de quelle matière on parle. Est-ce que sur ce point-là aussi, on peut travailler avec les clients, on peut travailler en interne de telle manière qu'on essaye de trouver des solutions performantes?
Alors, chez Construction Privée, on a mis au point une démarche archi-sobre. Alors, chez Construction Privée, mais plus largement chez Bouygues Bâtiment France. En fait, c'est une démarche, une façon de travailler qui nous permet de diminuer par 3 l'impact carbone d'un bâtiment. Et ça se réfléchit, plus on réfléchit en amont et plus c'est faisable, mais ça se réfléchit aussi au moment de l'appel d'offres. Et en gros, c'est un ensemble de solutions qu'on propose, qu'on travaille, qu'on applique à certains bâtiments plus comme et à d'autres, en fait, qui nous permet vraiment de diminuer significativement l'impact carbone des bâtiments.
Et alors du coup, si on a, on diminue, etc., l'impact carbone, est-ce que on est capable, puisque encore une fois, on est dans des produits qui mettent 4 ans, 5 ans, 6 ans, voire 10 ans entre le moment où on le réfléchit et le moment où on le construit, est-ce qu'on est capable de travailler sur cette évolution ? Moi, pourquoi je donne cet exemple ? Les tours, alors je ne veux pas les stigmatiser, mais enfin quand même, les tours de Jean Nouvel à Ivry, Port d'Ivry, on est quand même dans une situation où on a un bâtiment qui a été conçu il y a peut-être, je sais pas, 12-15 ans, qui a mis des années à se construire. Et aujourd'hui, quand on le regarde, et ça n'a rien à voir avec l'architecte, que j'apprécie beaucoup, on regarde et on dit, mais non, il y a une espèce d'obsolescence évidente, physiquement. Mais je parle même pas de ce qu'il y a à l'intérieur, etc. On a le sentiment que on pourrait peut-être faire différemment. Et encore une fois, c'est parce que on a changé aussi un petit peu notre mode de regarder. Alors, qu'est-ce qui fait que on peut travailler justement sur ça?
Alors, je connais pas bien le projet des tours de Jean Nouvel, c'est pas nous qui les avons construites, mais on travaille beaucoup des solutions de réemploi. En fait, on a une filiale qui s'appelle Cineo, qui est basée à Ivry, je sais pas si vous connaissez.
Ah oui.
Et on essaye aussi de proposer des matériaux différents. Alors ça, le fait de travailler avec un utilisateur, ça nous aide beaucoup parce qu'il y a une sorte de réticence avoir des en première impression.
Bah oui, bien sûr, il y a l'impression que c'est pas pérenne.
Oui, alors que c'est recyclage et réemploi. Et en fait, en travaillant vraiment avec les utilisateurs des bâtiments, on arrive à faire des choses tellement plus importantes que ce qu'on faisait avant. Et pour exemple, on a construit un bâtiment à Gentilly pour Score, l'investisseur, et on a vraiment pu pousser au maximum tout ça. Et on est très fiers. On a même construit des objets après, des meubles, des lampes, etc.
Avec bon, on n'a pas fini la conversation, Emmanuel. Je pense qu'on va se revoir. Enfin, en tout cas, on va se réécouter pour une autre interview, qu'en pensez-vous ?
Avec plaisir, Myriam.
Merci, au revoir, chers auditeurs, et à bientôt.
Conversations urbaines et architecturales, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.